sujet de discussion.
Nous en arrivons à notre lucarne de discussion de ce temps d'antenne. Pour la circonstance, j'aimerais entrer dans le sujet avec cette citation de Marcus Garvey qui dit ceci, et je cite, « Un peuple qui ne connaît pas son passé, ses origines et sa culture ressemble à un arbre sans racines. » Fin de citation. J'évoque la citation de Marcus Garvey parce qu'aujourd'hui, nous parlons de l'Afrique et de son peuple, précisément de descendance africaine ou afro-descendance. Et j'ai avec moi en studio des personnes pour nous instruire sur ce concept, son rôle et son importance dans une société multiculturelle. Madame Sharifatou Moussa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes présidente du comité exécutif de Afcedent Ally. C'est une association qui milite pour l'afro-descendance, c'est cela ?
Tout à fait.
Et vous êtes accompagné de Dr Simi Deroux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien.
Absolument.
Voilà, donc avec vous, on va parcourir l'histoire un peu de l'afro-descendance. Sachez que c'est un plaisir, hein, chers invités, de vous recevoir pour parler de descendance africaine ou afro-descendance. Le terme a été employé deux fois, mais en français facile. Comment peut-on définir l'afro-descendance, Dr Simi ?
Merci. Si on veut faire une approche sémantique, il y a l'afro et il y a la descendance. L'afro, c'est pas négro. Là, il faut préciser tout ce qui est lié à l'Afrique. Mmh. Et la descendance, c'est tout ce qu'on a comme postérité. Donc, c'est tout ce qui est lié à l'histoire de l'Afrique, tout ce qui est postérité, tout ce qui vient après, tout ce qu'on a comme ancêtre, comme ascendant. Mmh. Donc, voici un peu de manière, je sais pas si je pense qu'avoir été quand même le plus simple.
Voilà. D'accord, donc c'est tout ce qui se rapporte à l'Afrique, c'est tout ce qui descend de l'Afrique qu'on appelle afro-descendance.
Afro-descendance, tout ce qui vient après, tout ce qui est lié à l'histoire de l'Afrique.
Et tout. Et qui peut être considéré comme afro-descendant ?
Mais là, c'est une question pertinente. Il n'y a pas de, je dirais, de canon officiel établi à la matière. Je m'explique, hein, si vous permettez.
Mmh. Allez-y.
Pour des questions d'identité, il y a beaucoup de facteurs qui sont pris en compte. Généralement, il y a des facteurs qui sont officiels, qui sont définis par les autorités, mais ici, c'est surtout une question d'appartenance, un sentiment d'être. Sinon, de manière triviale, on peut considérer comme afro, ou ceux qui font partie de l'afro-descendance, tous ceux qui ont des ascendants africains. Mais il peut avoir des cas où ceux-mêmes qui ont ces ascendants-là ne partagent pas ce sentiment-là, ne se reconnaissent pas en cette sphère africaine. Là, une question peut être posée. Mais là, de manière générale, dès qu'on a un ascendant africain, on peut être considéré comme afro-descendant.
En tout cas, le point que vous avez touché, parlant d'ascendant africain, on va y revenir dans D'accord. quelques instants. Mais déjà, quel constat faites-vous de l'évolution de ce concept ailleurs dans le monde et même en Afrique ? Là, je vais me tourner d'abord du côté de Madame Sharifatou.
Je pense que de plus en plus, il y a une prise, une prise de conscience générale. Les jeunes Africains qui autrefois se voyaient plus à l'image des peuples européens, etc., ont plus tendance à faire un retour vers la racine, un retour à la source, au continent, à la terre-mère qui est notre chère Afrique. Pourquoi ? Parce que c'est important, comme vous l'avez dit dès au début, de savoir déjà d'où est-ce qu'on vient et de ce sentiment d'appartenance est déjà une fierté et en puisant déjà de cet héritage africain, de cette sagesse de notre continent pour se projeter vers l'avenir, vers un idéal qui va nous permettre de plus en plus de relever tous les défis. C'est quand on s'y connaît, on connaît son histoire, on connaît les problèmes que nous avons vécus, les problèmes qu'on est en train de vivre, qu'on va essayer de prévenir et d'éviter les problèmes qui sont à venir, déjà de trouver la solution à ce qui existe et de se projeter vers un développement durable et plus inclusif.
Et vous, docteur Simi, quel constat de l'évolution de ce concept ?
D'abord, il faut rompre avec cette perception victimaire, si vous permettez. Mm-hmm. On a l'impression que les Africains se comportent en éternel assisté ou en éternel victime. Donc, tout sentiment de revendication identitaire ramène souvent à une perception victimaire des gens qui veulent toujours se jouer les victimes. Ce n'est pas cela. Il faut aussi briser les stéréotypes selon lesquels la communauté ou le retour à la communauté est un vice. Malheureusement, on a certaines sciences qui semblent vouloir le stipuler. Hein. Quand c'est ailleurs, on parle de réseautage, c'est bon, mais quand c'est en Afrique, on parle des replis sectaires et plus communautaires. La communauté est un atout. la communauté est un atout. C'est vrai que nos communautés africaines ont été construites dans l'imaginaire comme des communautés qui se caractérisent par des guerres ethniques. Non, non, non. La communauté est un atout. Et c'est cet atout-là d'abord que les Africains doivent revendiquer, qu'ils doivent assumer. Revendiquer, c'est un peu trop dit, qu'ils doivent assumer. Donc le fait de se retrouver entre frères, le fait de chercher à connaître notre identité n'est pas un handicap. Il faut d'abord briser ce stéréotype et savoir que quand des Africains décident de se retrouver, ce n'est pas forcément parce qu'ils veulent pleurer sur leur histoire. Ils veulent se connaître, c'est tout à fait naturel de savoir d'où on vient. Et ils veulent aussi œuvrer à promouvoir tout ce qui peut permettre au continent d'aller de l'avant.
Madame Sharifa, toi, on parlait de ces personnes-là qui, quand bien même occidentalisées, s'intéressent à l'Afrique, mais force est de constater que le continent africain est fortement occidentalisé et cette occidentalisation continue au travers de plusieurs moyens, comme les médias, les réseaux sociaux et j'en passe. Est-ce qu'à la longue, cela ne constitue pas un frein à l'évolution du concept d'afrodescendance, docteur Simi?
Le continent africain est occidentalisé. Bon, c'est discutable, hein, mais voilà. Si l'occidentalisation doit nous permettre, par exemple, d'être dans un studio et de ventiler des convictions qui vont permettre à des Africains de se retrouver, je ne vois pas en quoi est-ce que là peut être un handicap. Donc l'occidentalisation ne doit pas être perçue. C'est pourquoi il faut sortir d'une perception conflictuelle. Vouloir construire un réseau de descendants n'est pas se mettre dans un canevas d'opposition avec une quelconque culture. On vient revendiquer notre culture, on vient l'assumer. Même dans notre passé, il y a des événements qui ne sont pas forcément heureux. Hein, ben voilà. Donc on vient trier ce passé-là, on vient l'assumer. Mais il faut surtout sortir de cette perception d'opposition à tout prix. Nul ne peut se réaliser sans une complémentarité. Donc ce qu'on appelle occidentalisé a quelque chose qui peut nous permettre d'aller de l'avant. On peut prendre cela et assumer aussi notre histoire. Donc, pour me résumer, je ne pense pas que ce qui est occidentalisé, c'est vrai que l'occidentalisation en griffe peut avoir un frein, ou du moins peut avoir des limites qui ne cadrent pas forcément avec notre condition, ou du moins nos convictions foncièrement afro. Mais chaque peuple a ses cultures. Là où il y a le relationnel, il y a des réticences. Ce n'est pas partout qu'il y a des compatibilités. Je pense qu'on peut en tenir compte. Mais l'essentiel, c'est de prendre ce qui est bon. Parce que ce qui est occidentalisé aussi a quelque chose de positif, il faut le reconnaître. Ce qui est aussi africaniste a quelque chose de positif, ce n'est pas forcément réplique communautaire et sectaire. Comment conjuguer ces éléments-là pour permettre surtout à l'Afrique de profiter, je pense que Mme Sharifa, tu as le dit tout à l'heure, de tous ces talents et tout ce qu'on a comme promotion de l'excellence afin de pouvoir aller de l'avant. Voici un peu ma perception.
Oui, et donc votre perception, moi je parlais d'occidentalisation. Enfin, c'est un constat, mais bon, on peut toujours discuter sur la question. Mais vous, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être ça peut freiner l'évolution du concept d'afro-descendance, Madame Sharifa Fatou?
Merci. Moi, je rejoins ce que pense Dr Simi. En toute chose, il faut positiver. Je pense que si on ramène ça à un plan plus individuel, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'on a à notre niveau comme force, qu'est-ce qu'on a comme faiblesse. Quand on a une force, c'est d'essayer de la maintenir. C'est de la maintenir. Maintenant, et les faiblesses, on essaie au maximum de les éviter ou de les anéantir. Donc, quand j'amène ça à une échelle plus étendue, c'est bien cela. Il faut prendre ce qui est positif de l'autre, copier le bon exemple, partager les bonnes pratiques, vivre en cohésion sociale, communautaire avec tout un chacun. Et la Terre, c'est un village planétaire. Nous sommes tous les mêmes. Je pense qu'il faut aller à un stade plus grand pour comprendre que la Terre, c'est un petit point de l'univers. C'est comme une maison, une famille où on cohabite en cohésion ensemble. Donc, nous devons partager des bonnes valeurs avec tout le monde.
Docteur Simi, vous êtes historien et j'aimerais qu'on se penche un peu sur l'histoire de l'Afrique. La descendance africaine, ça passe par la reconnaissance de l'histoire du continent africain. Mais quelle est cette histoire?
Il n'y a pas qu'une histoire, il y a beaucoup d'histoires. Voilà, ça dépend du domaine dans lequel on est. Mais généralement, je vous comprends.
D'aucuns affirment par exemple que l'histoire de l'Afrique se résume à l'esclavage.
Ça, c'est un pan qu'on a assumé. Assumer veut dire beaucoup de choses. Hein. Assumer ne veut pas dire forcément féliciter, ça ne veut pas dire encourager, ne veut pas dire justifier. Mais en tant qu'historiens, assumer veut dire comprendre. Comprendre quelque chose, ce n'est pas justifier. Donc, l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à l'esclavage. Vous avez vu, c'est pourquoi dès le début, j'ai dit qu'il faut sortir de ce concept victimaire, de ce concept où on vient s'opposer en victime. L'esclavage est un fait qui marque l'histoire de l'Afrique. La colonisation est aussi un fait qui marque l'histoire de l'Afrique. Il y a aussi, je le disais dernièrement, on a des ancêtres qui ont marqué l'histoire. Hein. L'histoire de l'Afrique est une histoire caractérisée comme de manière générale, une histoire où les femmes n'ont pas eu droit à des, au minimum comme droit élémentaire, où les femmes n'ont pas eu droit à la parole, les femmes n'ont pas été des héroïnes. Mais l'histoire de l'Afrique, c'est aussi l'histoire de la reine Pokou, par exemple. Dans les années 1700, on n'en parle pas trop. Vous voyez, c'est ces pans-là qu'il faut relever, par exemple, pour dire à nos sœurs ou à ceux qui ont une perception un peu réduite de l'Afrique, que l'Afrique n'est pas forcément ce continent-là qu'on a voulu toujours vendre. C'est l'histoire dans les années, je crois, 1593 en Angola, où la reine Zunga, c'est une reine qui a marqué, par exemple, l'histoire de l'Angola. Elle a permis de résister aux colonisateurs, elle a même permis de lutter contre l'esclavage. Donc je veux dire, il y a ces pans-là. Donc l'esclavage est un pan, mais il y a aussi des référents dans notre histoire qui nous permettent aussi d'aller avant. Voilà. Donc je veux dire qu'on ne peut pas résumer l'histoire de l'Afrique à l'esclavage, non. Voilà. L'esclavage est un pan de notre histoire qu'on doit assumer, on ne va pas pleurnicher tout le temps, on ne va pas faire le procès de l'esclavage tout le temps. C'est quelque chose qui est passé, qui fait partie de notre vie. Nous aussi, l'histoire de l'Afrique, c'est aussi l'histoire de nos coutumes, de nos us, qui ne sont pas forcément toutes parfaites. L'histoire n'est pas que le passé. Ça pose un débat, hein, chez nous en histoire, voilà. Chez nous, on dit le présent même n'existe pas, parce que quand je parle, c'est déjà passé. Donc l'histoire de l'Afrique ne s'arrête pas dans les années 1700. Ce qui s'est passé hier, c'est l'histoire de l'Afrique. Donc l'histoire de l'Afrique, c'est pourquoi nous avons beaucoup aimé le projet Afsianent. L'histoire de l'Afrique, c'est Didier Drogba. L'histoire de l'Afrique, c'est Alpha Blondy. L'histoire de l'Afrique, c'est Samuel Eto'o, pour ne pas comparer des sports. L'histoire de l'Afrique, c'est Cheikh Modibo Diarra. Eux aussi font partie de l'histoire de l'Afrique. Parce que l'histoire n'est pas finie. Elle n'est pas construite, enfermée pour un bon moment. L'histoire est continue et elle se construit au fur et à mesure.
Et elle continue de s'écrire encore ce matin.
Absolument.
Dans les studios de Radio de la Paix. Chers invités, au début de notre discussion, je vous avais demandé qui est-ce qu'on pouvait considérer comme afro-descendant. Sur cette question, j'aimerais vous présenter une situation. L'an dernier, l'artiste chanté en nigérian, Burna Boy, dans une interview, déclarait que les afro-américains devraient se reconnecter à leurs racines africaines. Il a pris l'exemple des sino-américains et des italo-américains qui ont une base dans leur pays d'origine, qui respectent cette base et qui ont par conséquent le soutien de leur gouvernement d'origine, ce qui fait qu'ils ont moins de problèmes ou qu'ils souffrent moins en Amérique. À cela, un groupe d'afro-américains a répondu que c'était un manque de respect à leur culture afro-américaine qui n'avait aucun lien avec l'Afrique, et d'autres, qu'on appelle les Fundamental Black American FBA, sont allés jusqu'à affirmer qu'eux n'étaient pas descendants d'Africains, mais descendants plutôt de Noirs qui étaient en Amérique avant l'arrivée de Christophe Colomb. Moi, j'aimerais savoir, déjà historiquement parlant, est-ce que cela est possible qu'il y ait eu des Noirs en Amérique bien avant l'arrivée de Christophe Colomb?
D'abord, ok, moi je pense que comme on a un impératif du temps, je suggère que le sujet soit plus perçu sur la question d'identification par rapport à l'appartenance, parce que le débat on va pas le finir. Moi je peux donner mon avis en histoire, il y a plusieurs courants. Je veux dire que le problème qui se pose là, on revient en Côte d'Ivoire, moi je prends un exemple simple, hein. On est par exemple à Boudépé, voilà, je sais pas si c'est là-bas, c'est les Atiers, et vous verrez aujourd'hui nos frères Atiers qui ont plusieurs personnes, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, qui ont plusieurs ressortissants en Europe. Et quand d'autres y vont, ils disent, mais il faut qu'on se réunisse pour venir développer les villages. Mais il y a des gens qui ne s'y reconnaissent pas, hein. Mais il y a d'autres qui s'y reconnaissent. J'ai posé le problème dès le début. La question d'identification. Qui est afro? Est-ce celui qui vient de l'Afrique ou celui qui se reconnaît comme africain? Il y a la question d'identité qui continue. Je vous donne un exemple, hein, la question de l'arabité. Je prends un exemple de aujourd'hui, le mot arabe. Il y a des gens qui estiment que celui qui est arabe, c'est forcément celui qui est musulman et celui qui est du père et du mère arabe. Il y a d'autres auteurs qui vous diront non. On peut naître baoulé, mais si on partage la culture arabe, on est arabe. Donc c'est ce problème par rapport à Burna Boy que vous posez. Aujourd'hui, ce n'est pas étonnant en science, ce genre de réaction. Partout, il y a des questions identitaires, il y a toujours des chocs. Relativement aux Afro-Américains dont vous parlez, il y a une histoire qui est pendante. J'en parlais la dernière fois avec un ami sociologue. Il me disait qu'il y a certains qui estiment qu'ils ont été vendus. Parlant de l'esclavage, vous voyez que ça nous rattrape. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres qui ont un sentiment de haine, plus ou moins. Mm-hmm. Donc, qui veulent être réhabilités. On a même eu dernièrement, il aurait eu des mouvements qui ont pensé à organiser des cérémonies comme on le fait à l'Afrique, là, en Afrique, de libation pour pouvoir balayer un peu ce problème. Mm-hmm. Pour dire qu'il aura toujours des chocs, c'est tout à fait naturel, hein, parce que tout début est un problème. Mais quand vous dites, quand l'initiative de Burna Boy, c'est bon ce que vous dites, mais il y a d'autres qui l'ont suivi. Il y a d'autres qui ont adhéré. Il y a d'autres qui sont aux États-Unis, qui sont encore dans ce courant-là. Je pense que c'est cela que Afsenen doit voir. Les obstacles, il y en aura toujours. On ne va pas refaire l'histoire. Ce n'est pas en disant à quelqu'un que, bon, il y avait des Africains aux États-Unis ou bien il n'y en avait pas. Ce n'est pas là la question en tant que telle. Scientifiquement, ce n'est pas mauvais. Mais je pense que l'optique dans laquelle on veut se situer, qui est de développer l'Afrique en se servant de tous ceux qui s'y reconnaissent, ici, c'est de voir... Qui doit se reconnaître africain? Qui peut se reconnaître africain? Comment on peut capitaliser tous les talents qu'on a pour aller de l'avant? Ben voilà, c'est ce que je peux dire.
Donc c'est la question de l'identité en fait qui
peut... Absolument.
Dire. D'accord. Aux auditeurs et auditrices qui viennent de nous prendre en marche, vous êtes sur Radio de la Paix et vous écoutez le sujet de discussion. À l'ordre du jour, la descendance africaine, son rôle et son importance dans une société multiculturelle. Pour en parler, je suis accompagné de Madame Charifatou Moussa et de Dr Simi Dereau. Alors, chers invités, nous avons parlé de descendance africaine, mais comment l'afro-descendance peut-elle se développer dans une société où toutes les cultures sont à la croisée des chemins? Aux États-Unis, par exemple, on parle de melting pot.
Of course.
Oui. Madame Charifatou.
Je pense que c'est opportun, déjà, dans ce cadre de promouvoir Afsendance. Je vais revenir rapidement aux objectifs. Afsendance est une opportunité grandiose, et en ce sens qu'elle veut déjà créer un réseau de collaboration entre les différents leaders et acteurs descendants d'Afrique. Elle veut cette reconnaissance, c'est-à-dire reconnaître, montrer et valoriser toutes les formes de contribution du peuple descendant d'Afrique. Et je pense que Dr Simi a déjà évoqué le cas. Et l'Afrique, ce n'est pas que la misère, ce n'est pas que l'insécurité, ce n'est pas la famine. Et les Africains ont contribué au développement de l'humanité dans divers domaines, que ce soit sportif, que ce soit économique, culturel, et dans tous les domaines, même politique. Donc c'est important de montrer déjà toutes les formes de contribution. Et il n'y a pas que Rima et dans le domaine artistique, il y a beaucoup de personnes, même dans le domaine scientifique, qui essaient de promouvoir la science au sein de communautés africaines. Et l'objectif aussi, c'est de promouvoir le talent. Parce que nous, on croit au capital humain, on croit que le monde se développe grâce à la capacité humaine. C'est quand on a une cheville ouvrière assez compétente qu'on peut prétendre à un développement. On ne peut pas développer une nation avec des médiocres. Donc, c'est de promouvoir le talent, promouvoir l'excellence et le développement au sein de la communauté descendante d'Afrique. Donc, voilà un peu... Et pourquoi j'ai dit que Afsendance est vraiment opportun. Beaucoup l'ont fait, on ne part pas de rien. Il y a beaucoup d'organisations qui existent et qui sont dans des domaines assez différents, mais qui se rejoignent et qui se complètent pour pouvoir vraiment unir les différents descendants africains et vraiment faire de ça une force qui va permettre d'asseoir un développement durable sur le continent africain.
Alors, vous avez parlé de promotion de talent. Comment cela se matérialise? Quelles sont les actions que vous menez en ce sens sur le terrain?
Il faut se dire déjà que Afsendance est très récent. C'est en fait un projet qui découle, qui s'inscrit plutôt dans le cadre de la décennie des peuples descendants d'Afrique et initié par UNESCO Center for Peace. Et donc, nous déjà, on cherche à créer un réseau des leaders. Les aînés qui nous ont précédés et qui ont permis d'atteindre ces niveaux, nous devons capitaliser l'héritage qu'ils nous ont laissé. Donc, c'est à travers leur sagesse, leur coaching, le mentorat qu'ils vont nous donner qu'on va essayer d'aider les plus jeunes. C'est que les étoiles montantes, comme on le dit, les jeunes qui sont talentueux et qui ont besoin de cet accompagnement. Donc, c'est de créer un réseau de collaboration déjà entre les leaders et permettre à ces réseaux d'interagir pour aider les plus jeunes. On a 5 volets qui ont été identifiés à Afsendance, dont les volets culturels. Donc, vous avez le volet sportif également, et le volet économique, Vous avez aussi le volet scientifique et aussi le volet engagement civique. Donc, dans tous ces cinq volets que je viens de citer, il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de travail à faire. Je pense que déjà, si les rôles modèles que nous avons se mettent ensemble et unir leurs forces, et ça va être très, très opportun pour aider les jeunes talents du continent. Ils ont été aussi aidés par leurs études. Je pense que ce sera aussi un plaisir pour eux d'aider l'Afrique à travers Afstandance.
Et quelles sont les zones dans lesquelles vous opérez dans le monde?
Déjà, Afstandance LI, c'est Unifying African Species for Development. Quand on parle de ça, on parle d'unir donc les différents espaces africains. Et les espaces africains sont partout. Vous avez l'Afrique en Europe, l'Afrique au Moyen-Orient, l'Afrique aux États-Unis et même l'Afrique en Afrique. Donc, oui, vous avez aussi l'Afrique en Afrique. Du coup, nous sommes un peu partout. Et Afstandance est très ambitieux à l'idée de mettre une plateforme virtuelle qui va nous interconnecter. Et cette plateforme va aussi permettre le dialogue et l'apprentissage au sein de cette communauté. Donc, nous prévoyons déjà de mettre en ligne, de faire une cartographie numérique de ces espaces. Je pense que ça va faciliter très rapidement la compréhension de l'histoire africaine. Et aujourd'hui, avec les outils technologiques que nous avons, c'est très facile de mettre cette plateforme et de permettre à la jeune génération qui est là et future de comprendre mieux l'histoire et de mieux appréhender l'histoire de l'Afrique et de mieux se projeter. Nous prévoyons aussi une bibliothèque virtuelle qui va contenir les livres des plus anciens aux plus récents qui ont été écrits par les descendants afro et les descendants d'Afrique. Et également, nous avons un projet de musée virtuel. Donc, tout ça, ce serait sur la plateforme Afstandance LI pour vraiment permettre ce partage, cette interconnexion et l'apprentissage au sein de Afstandance LI.
Afstandance compte combien d'années d'existence?
Alors, nous sommes déjà au début, nous sommes là pour lancer officiellement Afstandance LI en marge de la Cannes, la Cannes Total Energy 2023. Qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. C'est pour nous un moment propice pour rassembler les différents acteurs, les différents modèles qui ont contribué de manière vraiment conséquente au développement de notre continent. Donc voilà, c'est déjà un début de synergie. Nous sommes en train de faire une co-création de cette synergie afin de vraiment faire une capitalisation de ce que nos rôles modèles et nos aînés ont fait afin d'appuyer sur les jeunes acteurs, les jeunes leaders.
Et sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'exécution de vos activités?
Je vais vous raconter.
Docteur Simi qui rit. Docteur Simi, vous savez quelque chose apparemment?
Non. C'est juste un sourire.
Avant de commencer, déjà, je vais raconter une petite anecdote.
Oui, allez-y.
Et quelques personnes que je contacte, il y a mon cousin que j'ai appelé une fois. Je lui ai dit, écoute, je pense que c'est un collaborateur de longue date. Je lui ai dit, on va essayer de progresser vers... on a déjà appuyé beaucoup de talents au Niger. On a fait beaucoup pour les jeunes filles, les mathématiques, la littérature, les technologies, l'entrepreneuriat. Je pense qu'on va aller à un niveau plus étendu. Et sur les descendants, déjà que je travaille avec UNESCO Center for Peace et nous devons mettre en place un projet dans le cadre de la décennie des peuples descendants d'Afrique. Il me dit non. Cette histoire d'esclaves, tu ne me mets pas dedans. Je ne suis pas... Non. Et curieusement encore, un autre partenaire m'a fait la même chose. Quand j'ai appelé, il me dit non, s'il te plaît, histoire d'esclaves, c'est révolu, on va pas parler de ça. Je dis non. Et cette fois-ci, on va aller dans un domaine, on va pas se plaindre, on va pas toujours réclamer justice. On va montrer déjà ce qu'on a été capable de faire et on va se baser sur ça pour montrer toutes les potentialités qui regorge l'Afrique sur tous les domaines et même de l'intelligentsia et pour vraiment essayer d'innover d'aider les jeunes entrepreneurs sociaux à créer davantage et vraiment à contribuer au développement du continent. Et c'est là où je l'ai convaincu. Je l'ai convaincu, il a compris que ça s'inscrivait déjà dans le cadre de la promotion de l'excellence que nous avons faite au Niger. Ça fait depuis 2015 nous sommes dans le même combat. Et là, ça va à une échelle plus étendue, avec des domaines plus ambitieux et pour vraiment capitaliser les ressources humaines africaines, le talent africain, l'héritage africain, et pour vraiment définir ce concept-là, asseoir le développement du continent. Voilà.
Docteur Simimon, j'ai envie de vous demander, est-ce que dans toutes les activités qui sont prévues par Ascendant, il y a aussi des cours d'histoire pour vraiment instruire les adhérents, les participants, sur le fait que l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à l'esclavage? Parce que, vu son anecdote, les deux cas qu'elle a évoqués, ah oui, cette affaire d'esclaves, est-ce qu'il y a vraiment des masterclass qui sont prévues pour justement redorer le blason de l'Afrique?
Afsenet même, c'est pour redorer le blason de l'Afrique. Mmh. Voilà. Et le premier problème, le problème majeur, c'est ce que vous soulevez hein, tout à l'heure, il est perceptuel. Il y a des blocages perceptuels qui sont dus aux stéréotypes pour dire les Africains encore, voilà, encore eux. Ou bien il y a des gens qui ont du mal. Ils pensent que c'est un combat mémoriel. Du genre, ils n'ont pas envie de ressasser parce qu'ils ont en tête l'esclavage. Donc, il y a toute cette pédagogie-là qui doit être menée. Pour moi, c'est là le problème. Moi, j'ai eu à débattre avec elle. Hein. Voilà, quelqu'un est venu me au projet au début, mais voilà, on a échangé. Pour moi, c'est une chance, hein, c'est ce que je dis. C'est vrai qu'il y a le côté scientifique, mais c'est une chance parce que la collaboration qui va découler, si c'est effectif, ça serait quelque chose de bénéfique et tout le monde va en profiter. Ben voilà, tout le monde va en profiter. Pour moi, le premier défi, il est surtout idéologique. On va briser, je le répète, tous ces murs de méfiance, tous ces murs lézardés qu'on a sur l'Afrique, l'Afrique des guerres, voilà, l'Afrique des conflits. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez demandé, mais est-ce que l'Afrique, c'est pas l'esclavage? Donne aussi l'espoir, parce qu'il y a des jeunes Africains aujourd'hui qui sont pleins de talents, hein, mais à cause de l'image du continent qui est donnée, ils n'y croient pas. On parle aujourd'hui il y a des grands combats qui sont menés, de grandes politiques qui sont menées par nos gouvernants pour empêcher les jeunes de prendre la Méditerranée. Bon, ce n'est pas forcément parce qu'ils manquent d'ambition, ils manquent d'idées. Hein. Ça dépend de tout ce discours-là qui leur est ventilé. Alors, si on s'y met à faire la promotion, s'il y a des Africains qui sont des modèles ou qui ont pu s'insérer dans le tissu, tant au niveau de la diaspora qu'au niveau local, s'il y a une belle contribution, ces talents-là, on les répète. Il ne faut pas laisser les talents mourir. Faut pas laisser les talents mourir parce que les talents, ça existe. Hein. Nous, on y croit. Monsieur Mel, c'est ça. Hein, ben voilà. Oui. Monsieur Mel, par exemple, peut aller à Cradio. Bon, je sais. C'est un exemple. Hein, c'est vrai que voilà. Il va et Monsieur Mel, le journaliste, il va à Cradio. Et chaque fois qu'il y a une manifestation à Cradio, il y a un jeune qui se met à commenter. Et quand Monsieur Mel voit, il voit que ce jeune-là, s'il est encadré, il peut être très bon journaliste. Monsieur Mel le prend. Il envoie dans les locaux de ONU, de Radio de la Paix, il assiste. Et ça crée un petit... Ça va inciter. S'il y a des amis qui veulent, par exemple, le motiver, ça va... Moi, voici un peu le volet. Et ça va permettre à beaucoup de talents d'éclore. Et l'Afrique va en bénéficier. Mmh. Voilà, l'Afrique va en bénéficier. L'autre élément important, ça va permettre le communautarisme positif. Parce qu'on a une mauvaise perception du communautarisme en Afrique. Quand j'étudiais les conflits, on dit l'une des causes, c'est le communautarisme, en griffe. Parce que le mot « isme », il est un peu péjoratif. Ouais. Mais ce n'est pas mauvais de vivre en famille. Ce n'est pas mauvais de faire retour à ce qui est communauté. Aujourd'hui, on a comme une promotion, ce n'est pas un combat hein, contre des idéologies, mais c'est pour réhabiliter certains éléments de société qui peuvent nous permettre d'aller de l'avant. On nous fait croire aujourd'hui que, bon, avoir, c'est vrai, les gens ont des expériences amères, mais dans toute relation humaine, il y a des expériences amères. Mm-hmm. On nous fait croire que, il faut être, le mot par excellence, mais il faut être individualiste, vous savez, bon, convaincant. Mais toutes les communautés qui sont puissantes aujourd'hui vivent en réseau. On parle des Juifs, en Côte d'Ivoire, on parle de nos frères qui sont venus des pays du Moyen-Orient. Partout où on passe, si on a ce réseau-là, le réseau des Africains qui s'y connaissent, et il y a d'autres qui en demandent. C'est pourquoi je salue l'initiative d'Afsedent. Il y a d'autres qui en demandent. Il y a des Africains aujourd'hui qui sont prêts à pousser, à encourager des jeunes. Mais eux aussi, à leur niveau, quand ils vont apprendre qu'il y a des jeunes talents qui s'organisent, qui sont en train de créer un réseau pour aller de l'avant, ça peut briser l'idée qu'ils ont des jeunes Africains. Or, des jeunes à toujours vouloir profiter des gens qui veulent forcément, qui ne veulent pas construire. Voilà ce que moi je vois en bon. Ben voilà. Sinon, au niveau de l'obstacle, les préjugés, on aura toujours à en lutter. Que ce soit ceux qui sont pros, pas contre, mais qui ne comprennent pas. Quand on entend le mot descendant africain, ça crée directement des barrières au niveau perceptuel. Donc pédagogiquement, je pense qu'on est en train de le faire hein, ici, on va essayer de briser le plus grand combat. L'Africain, on dira peut-être que je suis sociobiologique, mais l'Africain de nature, il est communautaire. Peut-être c'est là que vous avez parlé d'occidentalisation. C'est beaucoup de phénomènes de dits ou qu'on qualifie de modernisme qui ont brisé ça et beaucoup d'expériences amères certainement à activer ou alimenter. Mais je pense que quand les gens auront compris l'avantage de Afsendent, ce que ça peut apporter à l'Afrique, je sais que d'ici peu, comme numériquement tout est possible, je pense que la plateforme va s'organiser et dans les faits, je pense qu'on pourra sentir. On pourra sentir. Ben voilà.
Madame Sharifatou, est-ce que vous avez eu écho d'autres mouvements dans le monde qui prônent l'afrodescendance? Si oui, est-ce que vous avez déjà eu à collaborer ou travailler ensemble?
Bien évidemment, oui. Je connais beaucoup de mouvements qui œuvrent dans ce sens. D'ailleurs, que je salue très, très vivement. On peut dire déjà qu'ils nous ont inspirés et ils ont fait beaucoup, certains même au prix de leur vie. C'était très difficile dans le passé de se prononcer pour défendre des idéaux de ce type. Et bon, il y a des mouvements encore plus récents dont on peut parler. Je pense que sur les réseaux sociaux, je vois souvent le ministère de la décolonisation. Et déjà, c'est qu'on voit ça, on comprend. Je connais aussi un réseau panafricain des jeunes pour la paix et la nation africaine et du Mali avec qui nous travaillons aussi. Et un autre aussi qui découle toujours de la décennie des peuples descendants d'Afrique, c'est le Symposium international des cultures africaines et ascendances. Et il n'y a pas que seulement des questions de politique ou culturelles. Je connais aussi l'African Institute of Mathematics qui pense que vraiment le prochain Einstein est africain. Ça, c'est vraiment merveilleux. Donc, j'en connais plein. L'Union africaine aussi, on ne va pas l'esquiver. Oui. C'est vraiment une organisation qui œuvre pour vraiment l'Afrique et pour ses descendants. Il y en a plein.
Qui peut adhérer à l'initiative Afsendent LI et comment le faire?
Alors, les canaux n'ont pas été bien établis. Tout celui qui veut soutenir est le bienvenu. Je peux donner l'exemple de la CIED, qui est notre partenaire technique et qui adhère à Afsendent LI. Et nous pouvons permettre à toutes les organisations qui ont pour idéologie vraiment d'unir l'Afrique dans cette communauté, dans cette communion positive, sont les bienvenus. Aussi bien les personnes physiques que les personnes morales sont les bienvenus à Afsendent LI.
D'accord, donc le canal par lequel l'adhésion va se faire est encore à définir, mais déjà pour toutes les personnes qui sont désireuses, personnes physiques comme personnes morales, qui sont désireuses d'adhérer à Afsendent, elles le peuvent naturellement.
Tout à fait.
Donc,
voilà,
donc toute personne, pour rejoindre le docteur Simi, toute personne qui se reconnaît dans l'identité afro.
C'est important, moi c'est le volet, bon, c'est ce débat-là que je fais en tant que scientifique. Je vous prends un exemple trivial, regardez la canne. Pendant que les éléphants jouent, vous voyez certains qui ne sont pas ivoiriens, mais qui supportent, c'est-à-dire qu'ils se sentent ivoiriens. Mmh. Le sentiment d'appartenance est un élément déterminant dans toute démarche identitaire. Mmh. Parce que quand c'est le sentiment territorial, oui, mais le sentiment racial même, il est limité, mais c'est la conviction qui importe. Voilà. Donc c'est un élément important. Bon, relativement à Afsendent, je pense qu'ils ont le lancement bientôt. C'est tellement qu'après le lancement, il aura plus de visibilité, les canaux plus ou moins seront bien situés. Mais je pense que c'est une initiative à encourager.
Chers invités, est-ce que vous avez un message à adresser aux afro-descendants qui nous écoutent et à tous les auditeurs et auditrices de Radio de la Paix? Docteur Simi, vous aviez la parole, donc je vous laisse lancer votre appel.
D'accord, merci. Mm-hmm. C'est un projet que je trouve original, prometteur et important pour l'Afrique. Alors moi, en tant que scientifique, j'invite tout le monde scientifique, tous ceux qui peuvent, parce que c'est ouvert, voilà, faut pas sectariser, voilà, tous ceux qui peuvent contribuer. Nous, on a été vraiment édifiés, hein, voilà, certaines de vos questions nous ont permis de voir des ébauches de solutions. Et l'Afrique a ce talent. Il y a des gens qui, en écoutant cette émission, vous allez voir, auront des idées même plus judicieuses et plus porteuses que celles que Afsendent a. Je pense que Afsendent est ouvert, que tous les scientifiques africains se mobilisent. Ce n'est pas une affaire de lettres, les mathématiciens, les physiciens, chacun a toujours un grain à apporter. Donc que tout le monde scientifique se mobilise pour que cette activité-là puisse profiter à tous les afros et à toute l'Afrique. Donc, c'est ce que je souhaiterais. Les autres couches de la société, je pense que Madame Sharifatou va le dire. Mais moi, j'interpelle encore le monde scientifique pour que nous puissions nous mobiliser, pour que chacun puisse contribuer comme il le faut à l'évolution de cette belle initiative.
Alors, Madame Sharifatou, c'est à vous.
Alors, moi, je crois à l'union de la force. Chacun de nous représente, si chacun de nous peut représenter un homme, je pense qu'ensemble, on va former la plus grande somme possible. Donc, c'est important qu'on s'unisse. Et nous invitons chacun à vraiment s'intéresser de plus près, que ce soit Afscendance directement ou n'importe quelle idéologie qui va vers le développement, vers la positivité, la question de la paix en Afrique. Nous invitons tout un chacun à les rejoindre. Donc sa région, forcément Afscendance, puisque l'idée n'est pas forcément de se connecter à nous. Nous, c'est le résultat qui est important chez nous, et nous sommes convaincus qu'à travers Afscendance LI, la transformation positive de l'Afrique se fera. J'invite aussi tout le monde à vraiment comportement positif, un comportement qui développe la cohésion sociale. Il est important qu'on s'évalue. Bon, nos aînés, ils ont très bien, ils ont fait beaucoup de belles choses, ils nous ont laissé un héritage dont on est fier, mais ce n'est pas de tout dont on est vraiment fier, je le disais tantôt, un héritage qui entretient la pauvreté, la corruption et tout ce qui s'ensuit, nous n'en voulons pas. Nous voulons perpétuer un héritage positif qui reflète une belle image de notre continent. Donc j'invite tout un chacun vraiment à une prise de conscience générale pour que nous travaillions ensemble, pour que nous innovons, pour que nous créons, pour que nous développons des solutions innovantes pérennes pour le développement tant souhaité de l'Afrique et de tous ses descendants. Merci.
Madame Sharifatou Moussa, présidente du comité exécutif d'Afscendance LI, et Dr Simi Derou, historien, étaient mes invités pour le sujet de discussion de ce jour. Merci, chers invités.
Je vous en prie.
Voilà. Merci.
Voilà, donc, merci d'être venu nous faire découvrir le concept de la descendance africaine et aussi Afscendance LI qui milite en ce sens. Merci également aux fidèles auditeurs et auditrices de Radio de la Paix de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un autre sujet de discussion. D'ici là, prenez soin de vous.
C'était Sujet de discussion.